Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle édition du JDA, l'actualité vue par les auditeurs sur Africa Radio. Ce mercredi, que se passe-t-il entre le Bénin et le Nigeria? Depuis plusieurs semaines, la frontière entre les deux pays est fermée. Alors cette mesure a été imposée unilatéralement par Abuja depuis le 20 août, officiellement, pour limiter la contrebande et la réexportation des produits agricoles. Alors, cette mesure sera-t-elle efficace? Comment expliquer cette fermeture? Que peut faire le Bénin pour contrer son grand voisin? Et la gestion de cette crise par les autorités béninoises vous semble-t-elle à la hauteur? Pour participer, nous faire part de vos témoignages, surtout, appelez-nous dès maintenant, notamment si vous êtes du côté du Bénin, au 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également nous envoyer des messages sur WhatsApp au 33 7 66 19 77 69. Mais avant cela, comme de tradition, place sans plus tarder au répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Oui, bonjour. C'est pour laisser un message concernant la polémique sur l'Iyantiram, que les Blancs s'est traîné supérieur aux Noirs. Moi, je suis un Noir, je suis de la RDC, Je me prénomme Charlie Mbata, j'habite en France, à Paris. Ben, moi, je suis complètement d'accord que les Blancs sont supérieurs aux Noirs. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui, en 2019, en Afrique du Sud, où le Noir, le Nègre, abruti que nous sommes, quand que nous sommes, penser que le Noir vient prendre le travail de notre Noir, sachant personnellement bien que c'est les Blancs qui tirent le ficelle, c'est les Blancs qui ont des entreprises, c'est les Blancs qui gèrent tout. Voir un Noir attacher son frère Noir, je suis vraiment désolé de le dire, mais quand Sarkozy avait dit que le Noir n'est pas encore en train de l'histoire, je pense même aujourd'hui que Sarkozy avait raison.
Oui, allô, bonjour. Je vous appelle parce que je suis africain et j'écoute la radio Africa, la radio Africa Radio. Donc, je veux bien que vous parliez de nos situations qui se passent en Afrique et comment ça se passe en Afrique. Je suis tout à fait d'accord, mais il faut penser aussi à ce que nous, on vit ici en France. Donc, j'insiste sur un problème où j'entends pas parler, alors attaquer Radio Africa. On a notre maman, qui peut être notre mère, qui peut être notre tante, qui peut être notre tata, qui s'est fait persécuter à Levallois par la mairie de Levallois et même M. Balkany. Pourquoi? Parce qu'elle a une boulangerie à Levallois. Et ces trucs-là, je n'entends pas parler une seule fois. On informe M. Macron, il a fait ça, on informe qu'il a fait ça. Mais vous nous oubliez qu'on vit ici, on subit quand même des choses qui ne sont vraiment pas catholiques.
Oui, bonjour Africa. C'est pour un peu intervenir sur le problème de l'Afrique du Sud. Mais les Sud-Africains, là, même, s'apprennent aux Africains noirs, aux Africains, même pourquoi? La peau blanche qui est allée s'installer chez eux, et puis à cause d'eux, ils ne savent même pas où mettre la tête là. Ils ne les voient pas. L'Africain, là, quand il est quelque part là, il connaît sa place. Il connaît sa place. On les tue comme des animaux. Moi, je dis que c'est une autre façon de voler. Ils ont fait une réunion, ils se sont entretenus pour aller voler les étrangers qui sont chez eux. Sinon, ils n'étaient pas seuls dans leur apartheid. On les a aidés, on les a soutenus comme il fallait. Il y a quoi? Parce que la violence, là, c'est pas une seule personne qui peut le faire.
Oui, bonjour, et je dis bonjour à tous les Africains et aussi Radio Africa. Je me permets aujourd'hui, parce qu'on était en train de rigoler avec d'autres amis, j'ai dit, dès qu'on on annonce la météo, on nous dit en France il fait 30 degrés, et voilà, et à Abidjan il fait 27 degrés et tout. Alors on s'est posé des questions, on dit pourquoi toujours quand ils donnent la météo, ils commencent en France et ils parlent tout de suite après d'Abidjan. Tous les jours. Et à Abidjan, c'est-à-dire, c'est en rigolant. Et Abidjan, c'est quoi? C'est la capitale? C'est une région de la France ou quoi? C'était pour rigoler. Et puis, voilà, essayer de le passer comme ça. Peut-être qu'il y aura des commentaires là-dessus pour d'autres personnes. Ils diront, est-ce que c'est quoi? C'est un gag ou c'est quoi? Voilà, exactement. Et merci à tout le monde. Je pense que rigoler, ça fait du bien que de pleurer. Et bonne journée à tous les Africains, à toutes personnes qui sont fidèles à Radio Africa. Au revoir, bye bye.
Oui, bonjour, les auditeurs d'Africa Radio. Bon, moi, je vous appelle parce que je pense que les présidents africains, deux fois, cherchent eux-mêmes les histoires, quoi, comme on le dit. Je crois que quand on a fini son mandat, ou bien quand son mandat doit finir, on n'a pas le droit de tout patouiller la Constitution. Et c'est ce qui va se passer en Guinée. En Guinée, il y a déjà le désordre. Ils vont remettre le désordre en Guinée. Et c'est déplorable pour un intellectuel comme le président guinéen. Moi, je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. Je pense qu'il faudra qu'il réfléchisse longtemps parce que les Guinéens ne sont plus au 16e siècle. Hein, c'est fini. Les Guinéens savent ce qu'ils veulent. Vous avez fini vos 10 ans. Il faut partir, monsieur le président. Parce que là, ça va encore amener le désordre dans le pays. Et c'est comme le cas de la Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara qui veut tout patouiller. Enfin, qui a déjà tout patouillé la constitution ivoirienne. Qui veut se représenter. Mais il a fait comme vous, monsieur le président de la Guinée, il a fait comme vous, il n'a pas voulu se prononcer. Et aujourd'hui, on a des images de Ouattara où il dit « je ne vais plus me représenter ». Non, si la Côte d'Ivoire, ça va mal, je vais revenir. Il faut savoir, vous avez fini votre mandat, vous avez embêté Babou Laurent, il est parti. Maintenant, vous aussi, vous avez fini. La seule tablée est plus partée.
Bonjour Africa Radio. Bonjour Stéphanie, c'est M. Djabi. Je vais parler aujourd'hui, juste hier, le débat que vous avez fait pour la Guinée. Vraiment, je demande à Alpha Condé de ne pas commettre la trouble de l'Afrique de l'Ouest. Vraiment. Je demande à Alassane Ouattara de ne pas commettre la trouble encore de l'Afrique de l'Ouest. On a assez vraiment de retard, vraiment. S'il vous plaît, vous avez fait 10 ans de mandat. S'il vous plaît, partez avec vraiment, avec tout un honneur, vraiment pour toute l'Afrique. Vraiment. S'il vous plaît, Alpha Condé, on vous demande pardon. Vraiment, moi, je suis malien. Si la Guinée est touchée, Mali est touché. S'il vous plaît, si vous partez tranquillement, Boubacar Keïta, il prend son bagage, il partira tranquillement, s'il vous plaît. Vraiment. Et 10 ans de pouvoir, vous n'avez pas changé de constitution. 4 mois d'élection présidentielle, vous allez changer de constitution. Non, s'il vous plaît, partez tranquillement. Si vous ne partez pas tranquillement, vous avez délogé Yahya Jammeh. Vous serez délogé par glace de l'Ouest. Amis de JDA, c'est M. Djabi. Bonne journée.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages aujourd'hui dans le journal des auditeurs. La fermeture de la frontière entre le Nigeria et le Bénin. Cette mesure a donc été imposée unilatéralement par Abuja depuis le 20 août officiellement pour limiter la contrebande et la réexportation des produits agricoles. Les autorités béninoises ont déclaré à plusieurs reprises qu'une médiation était en cours. Mais depuis, le prix du paillot, l'essence frelate de contrebande est grimpé en flèche. Les camions stationnent à la frontière et sont régulièrement pillés. Pire, les commerçants travaillant à côté de la frontière entre le Bénin et le Nigeria, sans revenus, ne peuvent plus se soigner. Alors comment expliquer cette fermeture? Que peut faire le Bénin pour contrer les mesures de son grand voisin? Et la gestion de cette crise par les autorités béninoises vous semble-t-elle à la hauteur? On commence tout de suite d'en parler avec Jean-Claude. Jean-Claude, bonjour.
Oui, bonjour Madame Hartmann.
Bonjour Jean-Claude, ça va très bien, merci beaucoup, bienvenue dans le journal des auditeurs. Jean-Claude, vous vous dites la raison est purement politique, c'est-à-dire?
Alors, la raison est purement politique. Vous rappelez des raisons, des déclarations officielles des autorités béninoises relatives aux Nigériens par rapport aux événements post-électoraux. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Tchaourou et à Savé, où certaines autorités disaient que il y a eu des Nigériens qui sont venus prêter main forte aux Béninois pour semer le trouble au Bénin. Il y a plusieurs raisons. Il faut reconnaître aussi que il y a une taxation exorbitante des camions de l'homme d'affaires Dangote qui traverse le Bénin.
Jeune Afrique, allez-y. Hein. Oui.
Voilà. Donc il y a tout ça et depuis l'arrivée du président Patrice Talon, il faut reconnaître que la relation entre le Bénin et le Nigeria a pris un tour dans l'aile. Vu du Nigeria et surtout la presse nigériane, on constate une certaine autosuffisance et une arrogance, voire une arrogance des autorités béninoises. Si vous vous rappelez aussi bien, quand le président Talon est arrivé, les membres de son gouvernement disaient clairement « on n'a pas besoin de Nigeria ». Alors que le Nigeria, c'est la première puissance en Afrique. C'est que le Nigeria représente 70% du PIB de toute la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, le Bénin a appris à vivre avec le Nigeria. Et cette histoire de contrebande a toujours existé entre le Bénin et le Nigeria. La contrebande, surtout la réexportation. Et c'est vrai, le Nigeria s'en inquiète parce que le Nigeria, et d'ailleurs c'est ce que je salue, a cette nouvelle politique de production locale et de consommation locale. Et d'ailleurs, cette technique, c'est ça qui permet de doper la croissance, permet d'avoir une croissance inclusive et résiliente. Et donc, en soi, le sujet est connu. Mais les anciens présidents, que ce soit le président Yahya qui a toujours dit que le Nigeria est le 37e État, le Bénin est le 37e État du Nigeria, le président Kérékou, pareil. Aujourd'hui, il n'y a pas cette proximité entre le président Talon et les autorités nigérianes. Et tout ça mélangé, ça a créé une frustration du côté du Nigeria. Et si vous voyez bien, le Nigeria a décidé, la décision a été unilatérale.
Si on comprend bien, Jean-Claude, pour vous, finalement, ce sont plutôt des mesures, on va dire, de rétorsion, voilà. Les relations sont plutôt froides entre Patrice Talon et Mouamadou Bouhari, hein. En tout cas, c'est ce que a dit Jean-Claude, et que finalement, voilà, le Nigeria se sent un peu... en tout cas, je cherche à montrer au Bénin qui est le plus fort. Je vous remercie beaucoup, Jean-Claude, pour votre intervention, pour ouvrir ce débat. Je vous souhaite une excellente journée. Je demande à Eric et Abdel de patienter un petit peu. On va se diriger du côté de Lomé, retrouver Paul Aimé. Paul Aimé, bonjour.
Oui, bonjour madame, bonjour les auditeurs d'Africa numéro 1, l'ancienne Africa numéro 1.
Exactement, mais l'identité reste la même, mon cher Paul Aimé. Vous vous dites au Togo, on ressent les conséquences de cette fermeture.
Effectivement, merci pour le sujet. En effet, à l'annonce de la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Nigeria, nous ne sommes pas inquiétés de rien. Parce que, cela ne nous concernait pas. Mais au moment où le besoin s'est fait sentir, c'est-à-dire le manque de carburant partout au Togo, que nous avons pris conscience. Il y a près d'une semaine où le carburant est rare au pays d'Enyassine. Les points de vente fermés, des files d'attente devant des stations qui en ont encore un peu de carburant. Le prix du litre a doublé considérablement. Le litre qui coûtait à 500 francs CFA est passé à 1000 francs ou 1200 par endroit, quoi. Certaines stations ont fermé actuellement. Bref, c'est une catastrophe au Togo. C'est une catastrophe. Cette pénurie a fait doubler aussi les prix des déplacements, c'est-à-dire les tarifs des déplacements à l'intérieur du pays. Un trajet qui coûtait 500 est aujourd'hui à 800 ou bien à 900 francs par chauffeur ou bien taxi. Donc, vous comprenez avec moi que c'est le Nigeria qui alimente le Togo en carburant. Or, le Togo en extrait le sien et clandestinement et le vend à l'étranger sans l'utiliser lui-même. Ce qui démontre déjà la mauvaise foi des dirigeants de ce pays à le faire développer. Tout ceci a fait réagir dernièrement le président de la Ligue des consommateurs du Togo à interpeller les autorités à trouver rapidement une solution à ce sujet, quoi. Donc, moi, j'interpelle les dirigeants des deux pays, c'est-à-dire M. Talon, Patrice Bouhari, à trouver rapidement une issue de sortie de crise pour que la frontière soit réouverte afin que nous ayons à nouveau du carburant. Sinon, il est impossible de circuler parce que toutes les motos, les voitures sont stationnées dans les points. Et c'est très difficile, quoi.
Merci Paul Aimé de ce témoignage depuis Lomé. Excellente journée à vous. Et puis on peut rappeler aussi que l'armée togolaise s'est engagée justement à racheter les tomates des producteurs togolais qui ne peuvent plus être exportés, en tout cas qui menaçaient de pourrir à la frontière. 33 1 55 07 58 00. On va écouter Eric dans une minute. Avant cela, une petite information. Il semblerait qu'au TICAD, c'était la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Les deux présidents, Patrice Talon et Mouamadou Bouhari, se sont expliqués. Mouamadou Bouhari aurait dit à Patrice Talon aujourd'hui que nos populations rurales sont retournées dans leurs fermes agricoles pour rehausser notre production, ce qui a permis à notre pays d'économiser d'énormes sommes d'argent qui aurait autrement été dépensé pour importer du riz. Nous ne pouvons pas nous permettre la contrebande de ces produits agricoles dans des proportions aussi alarmantes. Eric, bonjour. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour Eric, merci de votre patience.
Ben, je vous en prie, Stéphanie. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Africa numéro 1. Bah, écoutez, moi je suis un peu circonspect en tout cas par l'attitude et l'attentisme en tout cas des autorités béninoises, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que depuis l'année dernière, le Niger avait mis en garde le Bénin contre justement cette réimportation, réexportation plutôt.
Excusez-moi Eric, ça me permet d'expliquer peut-être ce qu'est la réexportation. Finalement, ce sont des Béninois qui vont chercher des marchandises au Nigérian et qui les exportent au nom du Bénin, c'est bien ça?
Ils ne les achètent pas au nom du Bénin. En fait, si vous voulez, c'est que les ports nigérians connaissent un certain nombre de difficultés en matière d'infrastructures pour alimenter le marché nigérian. Et compte tenu aussi de la complexité des aspects logistiques au Nigeria, donc beaucoup de produits, notamment le riz, l'huile et les produits carnés, qui passent par le Bénin pour être réexportés au Nigeria. D'accord. Il y a deux axes. Il y a l'axe à travers la frontière bénino-nigériane, la frontière de Sémé-Craqué, et aussi l'autre axe des marchandises qui passent par le Bénin pour rentrer au nord avec la frontière, là cette fois-ci, pas bénino-nigérienne, mais bénino-nigérienne, pour être déversée ensuite au nord du Nigeria. Donc il y a ces deux axes aujourd'hui de réexportation qui alimentaient le marché nigérian. Et depuis l'année dernière, les autorités nigérianes, et il y a eu même une rencontre entre les deux chefs d'État, Patrice Talon et Mouamadou Bouhari, afin de mettre en place un comité mixte pour endiguer le problème de la contrebande, notamment du riz. Parce que le Nigeria aujourd'hui a amorcé une production locale et elle ne souhaiterait pas que cette production locale soit annihilée par les importations de produits de contrebande surtout. Mais malheureusement, depuis un an, on a assisté à une certaine inertie, en tout cas. La preuve, c'est que le Niger, à un moment donné, a tiré la sonnette d'alarme, pour ne pas dire a mis le holà à un moment donné, pour fermer la frontière. Il faut dire qu'avant que cette décision unilatérale se mette en place, il y avait le ticône nigérian Aliko Dangote qui avait plusieurs fois mis en avant le fait que la contrebande des produits alimentaires, notamment le riz, qui passe par le Bénin à destination du marché nigérian, posait un véritable problème à leur économie. Malgré ces alertes-là, les autorités béninoises n'ont pas su, en tout cas, gérer cette problématique. C'est vrai, la contrebande a un véritable problème pour le Nigeria. Pour le Bénin en particulier, il faut avouer qu'on fait 20%, entre 20 et 25% du produit intérieur brut du Bénin avec le Nigeria. Donc c'est difficile aujourd'hui de se passer de cette manne fiscale qui transite par le port de Cotonou à destination du Nigeria. Donc, bon à mal an, ce n'est pas la faute du gouvernement de Patrice Talon, mais la faute du gouvernement, c'est de n'avoir pas pris des mesures de rétorsion pour endiguer justement cette contrebande. Parce que la contrebande, elle a toujours existé. Mais il y a eu toujours des mesures.
Et c'est pas on peut le dire, Eric, c'est pas la première fois que le Nigeria s'agace et ferme la frontière. Apparemment,
c'est
plutôt récurrent.
C'est la première fois qu'on a une rupture complète, en tout cas, du dialogue entre les deux États. Parce qu'il faut avouer qu'au auparavant, on essayait, les anciens chefs d'État, que ce soit Mathieu Kérékou avec Obasanjo, puisque c'est à cette époque-là, justement, le Niger avait fermé ses frontières, ils ont trouvé un terrain d'entente. Malheureusement, on sent qu'il y a une panne au niveau diplomatique, en tout cas, pour pouvoir gérer cette crise. Il faut avouer que le commerce de contrebande n'est pas du tout viable à long terme. Et il est de la souveraineté d'un État de pouvoir sauvegarder son économie. Vous savez, depuis 2016, en tout cas, que le Niger a amorcé, en tout cas, un développement endogène de sa politique économique en diversifiant ses sources de revenus en dehors du pétrole, notamment l'agriculture, mais également d'autres secteurs. Malheureusement, le Bénin n'a pas pris le pli de comprendre que le Nigeria aujourd'hui ne peut plus, en tout cas, absorber cette importation indirecte, en tout cas, des produits alimentaires à destination de son pays, parce que ça pénalise non seulement les producteurs locaux, mais aussi ça pénalise les échanges, la balance de paiement. Je ne veux pas rentrer dans les développements économiques, mais il faut des devises pour acheter que ce soit le riz, l'huile et d'autres produits à l'étranger.
Bien sûr.
Donc aujourd'hui, la politique nigériane, c'est de pouvoir allouer ces devises étrangères vers le financement de projets locaux.
Vous entendre...
Malheureusement...
Oui.
Oui.
Pour conclure,
malheureusement, n'a pas pris le pli justement sur cette ce réaménagement de la politique. Il faut avouer que bon, il y a une certaine aussi, il y a un choix politique en tout cas qui est certes de diversifier, mais peut-être pas dans l'axe de la production locale, parce que la richesse du Bénin aujourd'hui, l'une des richesses du Bénin, c'est le coton. Mais le coton, malheureusement, ne profite pas majoritairement béninois, afin de pouvoir alimenter le marché nigérien. Le coton béninois est réexporté, et avec les devises de ce coton, on achète des produits, on importe des produits
alimentaires.
On sait très bien qu'aujourd'hui, les commerçants qui sont dans cette filière de réimportation, de réexportation vers le Nigeria, ils sont un peu dans l'impasse. On va assister dans les prochaines semaines, en tout cas, à une crise systémique. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que c'est les banques qui financent ces importateurs de riz à destination du Nigeria. Donc les banques béninoises risquent de souffrir aussi de...
Ce que vous soulignez finalement, Eric, on a bien compris, vous soulignez finalement les conséquences à l'instant, hein, qui peuvent être plus graves, hein, les conséquences sur l'économie du Bénin et la forte dépendance, hein, finalement, de l'économie béninoise aussi à son voisin nigérien. Et on a bien compris aussi, Eric, hein, que selon vous, c'est finalement le Bénin qui n'a pas su sentir, hein, le changement de politique au Nigeria, le vent tourné, j'allais dire, au Nigeria, effectivement, peut-être les nouvelles politiques mises en place par Mouamadou Bouhari. Merci beaucoup, Eric, pour votre intervention nourrit ce débat. On va tout de suite écouter Abdel, qui attend depuis un bout de temps. Abdel, bonjour.
Oui, bonjour, madame Stéphanie.
Bonjour, monsieur Abdel. Il est tôt chez vous, vous êtes du côté de Montréal. Bienvenue dans le JDA.
Oui, ça fait plaisir. Bon. Écoutez, ce qui se passe au niveau du Bénin ou du Togo, il faut d'abord préciser que ce n'est pas seulement la frontière avec le Bénin qui est fermée, et avec tous les pays, pratiquement, à moins que je n'ai pas la bonne information. Mais ce qui se passe, c'est beaucoup plus la guerre des milliardaires qui sont en train de faire mal à leur population, aux pauvres populations. C'est vrai, le Nigeria, c'est un grand pays à côté du Bénin, quand le Nigeria tous le Bénin à terre, ça c'est clair. Et c'est deux pays qui partagent beaucoup d'histoires et puis qui sont dans une symbiosité terrible qui fait que même fermer la frontière, ça ne peut pas empêcher les échanges. Les échanges se font aujourd'hui, mais c'est vrai que ça fait... C'est beaucoup plus les contrebandiers qui en profitent. Parce qu'au lieu que les choses passent par la voie normale, ça passe par les voies détournées. Malheureusement... Les populations sont obligées d'acheter des choses beaucoup plus chères, les denrées. Le Bénin nourrit le Nigeria comme le Nigeria nourrit le Bénin. Même si le Nigeria dit que si le Bénin produit des choses, il va les consommer. Ça, c'est clair. Si tu veux faire un commerce à côté avec le Nigeria, tu es sûr d'aller vraiment loin.
Bah, il semblerait quand même, hein, selon quand même Albert Oloncou, hein, qui est professeur en économie, hein, il rappelle que 90%, hors exception du coton, hein, 90% de la production agricole du Bénin sont achetés par les Nigérians. Par exemple, pour le soja, 80% de la récolte est exportée au Nigeria.
Tout à fait. Donc, Quand on parle d'exportation du riz, ce n'est que quelques milliardaires qui ont leur affaire là, et c'est ensemble avec les voisins nigériens qui s'entendent avec ça. Donc, ils n'ont qu'à mettre la population au-delà de tous leurs problèmes. Elle n'est pas à nous attirer.
Mais alors justement, du côté de la frontière, Abdel, on est quand même apparemment plutôt embêté. Je le disais, hein, les camions qui sont obligés de stationner sont pillés. Les gens qui vivent, qui vivaient de ce commerce n'ont plus de revenus. Est-ce que les autorités médinoises ont suffisamment pris en compte l'ampleur des conséquences?
Ça, c'est sûr qu'ils n'ont pas pris un peu de conséquences. Ça, c'est sûr, parce que ils n'ont jamais assoi une politique qui permet vraiment d'assurer ne serait-ce que la sécurité et les impacts. Malheureusement, c'est la guerre des milliardaires, c'est la population qui souffre. C'est le réel problème, ça. C'est même pas l'économie, parce que dans les accords de CEDEAO, c'est un environnement où il y a libre circulation des personnes et des biens, et c'est le plus important aujourd'hui. Mais un pays s'élève et ferme. Parce que quand il ferme la frontière avec le Bénin, il ferme avec le Togo, avec le Ghana, avec la Côte d'Ivoire. C'est une ligne vraiment directe que les gens font journalièrement. Donc, il associe tout, il bloque l'économie de tous ces pays-là. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'ils restent.
Est-ce que, selon vous, la CEDEAO doit frapper du poing sur la table, puisque, comme vous venez de te dire, le Nigeria est signataire d'un accord de libre circulation?
C'est justement là où je voulais en venir. La CEDEAO n'a pas se taire jusqu'à ce qu'il se passe comme ça. Là, ce n'est pas normal. Quand on est dans un accord de coopération avec 16 pays, un se lève et bloque toute la chaîne. Alors qu'au-delà du commerce, il y a plein de choses qui sont installées. Ils ont exigé à chacun des pays de mettre son réseau routier en forme pour que la circulation se fasse. Les gens investissent dans tout ça là, mais aujourd'hui, un se lève pour bloquer. Ça n'a pas de sens. Ça a un recours sur tout le monde. Franchement, c'est au-delà de l'ego que les gens sont en train de se montrer entre milliardaires. Il faut qu'ils pensent beaucoup aux populations. C'est plus de 300 millions d'habitants, là, la CEDEAO. Et c'est sûr que le Nigeria, c'est un géant parmi l'ensemble. Il faut qu'il y ait raison gardée dans toutes ces choses-là. Parce que ce n'est pas la population nigérienne produit. Ce qui produit, c'est consommé. Le Bénin consomme aussi le Nigeria. Le Nigeria consomme le Bénin. Et tout.
Vous pensez que les échanges sont égaux, finalement, sont équivalents, c'est ce que vous dites, hein?
Mais c'est réciproque, c'est une symbose. Écoutez, il y a des... Moi-même qui vous parle là, mon origine, c'est le Nigeria. Mais je vis au Bénin, il y en a au Ghana, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a partout. Mais ils bloquent tout le monde comme ça. Et non, mais c'est pas une politique. C'est un égoïsme qui n'a pas de sens.
Merci.
Non, la CEDEAO se prononce, là.
Merci à Abdel qui en appelle à la CEDEAO. Je suis désolée, on arrive à la fin de cette émission, on n'aura pas le temps d'écouter Diomodo qui voulait dire et qui voulait parler des conséquences économiques très graves, notamment pour le Bénin, et Philippe aussi, il me disait c'est un sujet très grave. Je vous invite, messieurs, à peut-être laisser votre message sur le répondeur d'Africa Radio. Le numéro du répondeur, c'est le 33 1 55 07 58 05. Merci à tous de votre participation. Vous pouvez également continuer le débat sur nos réseaux sociaux, la page Facebook, facebook.com/journaldesauditeurs, le compte Twitter, c'est @JAuditeur. Voilà pour les réseaux sociaux. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du JDA. En attendant, prenez grand soin de vous et des autres à l'écoute d'Africa Radio, la seule, l'unique, la vraie radio africaine. À demain.